Chapitre 89, Influence positive sur l'esprit. Gratitude et santé, rien ne dispose mieux à la santé du corps et de l'âme qu'un esprit de reconnaissance et de louange. Notre devoir formel est de résister à la mélancolie, aux pensées sombres et au mécontentement, il est aussi impérieux que celui de prier. Emprunteur, non propriétaire, comme il est naturel que nous nous considérions comme nous appartenant à nous-mêmes. Cependant, la parole inspirée déclare, « Ne savez-vous pas ceci ? Vous n'êtes pas à vous-même ? Car vous avez été racheté à un grand prix. À l'égard de nos semblables, nous sommes propriétaires des aptitudes physiques et mentales dont nous sommes les économes. Vis-à-vis de Dieu, nous sommes des emprunteurs, des gérants de sa grâce. Un idéal à atteindre, l'unité entre chrétiens, Dieu désire voir régner au sein de son peuple l'union et l'amour fraternel. Peu avant sa crucifixion, Jésus, dans sa prière, demandait que ses disciples fussent un comme il est lui-même un avec le Père, afin de faire connaître au monde que Dieu l'avait envoyé. Cette prière si touchante qui a traversé les siècles est aussi pour nous. Jésus ajoute, « En effet, ce n'est pas seulement pour eux que je prie, mais aussi pour ceux qui croiront en moi par leurs paroles. » Sans sacrifier jamais un seul principe de la vérité, nous devons tendre avec constance vers cette unité qui prouve que nous sommes disciples du Maître. C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres, dit encore Jésus, que tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Et voici l'exhortation que l'apôtre Pierre adresse à l'Église, « Soyez tous d'un même sentiment, pleins de compassion et d'amour fraternel. » Tirez des leçons positives, nous avons tous vu à la surface d'un étang le merveilleux nénuphar blanc. Comme nous aurions aimé pouvoir cueillir cette fleur. La quantité de fange et de détritus au milieu desquels il se trouvait ne diminuait pas notre désir, et nous nous demandions comment le lit peut être si beau, si blanc au milieu de toutes ces impuretés. Eh bien, sa tige plonge à travers le sable doré, et elle ne puise rien d'autre que la substance la plus pure qui nourrit le nénuphar jusqu'à ce qu'il devienne la fleur immaculée que l'on sait. N'y a-t-il pas là une leçon pour nous? Assurément, cela nous montre que quelle que soit l'iniquité qui nous entoure, nous ne devrions pas nous en approcher. Ne parlez pas de l'injustice et de la méchanceté qui sévissent dans le monde, mais élevez vos pensées et parlez de votre Sauveur. Quand vous constatez l'iniquité qui vous environne, vous devriez être d'autant plus heureux de savoir qu'il est votre Sauveur et que nous sommes ses enfants. Dès lors, pourquoi regarder l'iniquité qui nous entoure et nous arrêter sur son côté sombre? De toute façon, nous ne pouvons pas y remédier. Entretenons-nous donc de ce qui est plus élevé, meilleur, plus noble. Parlons de ce qui est de nature à produire une bonne impression sur l'esprit, de ce qui élèvera toute âme au-dessus de cette iniquité pour l'introduire dans la lumière d'en haut. Comptez les bienfaits de Dieu, si toutes les énergies dispersées étaient dirigées sur un seul et même objectif, les abondantes ressources de la grâce de Dieu dans cette vie, quel témoignage de gratitude ne pourrions-nous pas graver dans nos mémoires, en nous rappelant les bontés et les faveurs divines? En vertu d'un principe constant, nous prendrions alors l'habitude d'accumuler des trésors spirituels avec autant d'empressement et de persévérance que ceux qui sont animés des désirs du monde se démènent pour obtenir les biens terrestres et temporels. Il se peut que vous soyez insatisfait des ressources que vous avez présentement, alors que le Seigneur dispose d'une montagne de bénédictions, d'un trésor de bienfaits et de miséricorde pour satisfaire les besoins de votre âme. Aujourd'hui, il nous faut plus de grâce. Aujourd'hui, il nous faut un renouveau de l'amour de Dieu et des marques de sa bienveillance, et il ne refusera pas ses bienfaits et ses trésors célestes à quiconque les recherche avec sincérité. Des résultats à la mesure des dons, chaque serviteur a des responsabilités dont il doit rendre compte, et les diverses responsabilités sont proportionnées à nos différentes capacités. En dispensant ces dons, Dieu n'a pas fait preuve de favoritisme. Il les a distribués selon les capacités connues de ses serviteurs, et il en attend des revenus correspondants. Chacun doit utiliser ses talents à bon escient. Le temps doit être employé avec sagesse et sérieux, et par la sanctification du Saint-Esprit. Nous devons comprendre exactement ce qui est bien et ce qui est mal dans l'usage de nos biens et de nos aptitudes physiques et mentales. Le Seigneur dispose d'un droit de propriété sur toutes les capacités dont il a pourvu l'agent humain. Dans sa sagesse, il fixe les conditions relatives à l'utilisation de tous ses dons, et il bénira le bon usage de tout talent employé pour la gloire de son nom. Qu'il s'agisse du don de la parole, de la mémoire ou des biens matériels, tous les talents doivent contribuer à la gloire de Dieu et à l'avancement de son royaume. Le Seigneur nous a confié la charge de ses biens en son absence. Chaque gestionnaire a une œuvre spéciale à accomplir en vue de l'avancement du royaume de Dieu. Un devoir, cultiver nos talents, nous devons cultiver les talents que Dieu nous a donnés. Ce sont ses dons, et ils doivent être employés en harmonie avec les autres talents afin qu'ils forment un ensemble parfait. Dieu donne les talents, les facultés mentales. L'homme forge le caractère. L'esprit est le jardin du Seigneur que l'homme doit cultiver avec zèle afin de forger un caractère à la ressemblance du divin. L'inaction engendre l'incapacité, beaucoup excusent leur paresse en alléguant leur incapacité. Mais Dieu les aurait-il vraiment créés inaptes? Certainement pas. Cette incapacité est le produit de leur inaction, cultivée par eux de leur plein gré. Déjà ils sentent dans leur caractère les effets de la sentence, ôtez-lui le talent. Le mépris constant de leurs dons finira par contrister et éloigner d'eux le Saint-Esprit, leur unique lumière. Le verdict, le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, appose le sceau du ciel sur le choix qu'ils auront fait eux-mêmes pour l'éternité. Une synthèse de différents éléments, l'unité dans la diversité est conforme au plan de Dieu. Parmi les disciples du Christ, il doit y avoir une synthèse de différents éléments, l'un étant adapté à l'autre et chacun accomplissant une œuvre particulière pour Dieu. Chaque individu a un rôle à jouer dans la réalisation du grand plan qui porte la marque de l'image du Christ. Tel est capable d'accomplir une certaine tâche. Tel autre est propre à remplir une œuvre différente. Tel autre encore se voit confier une tâche dans un domaine différent. Mais chacun est appelé à compléter les autres. L'Esprit de Dieu agissant par et à travers ces divers éléments produira une action harmonieuse. Il doit y avoir un seul Esprit directeur, l'Esprit de celui qui est infini en sagesse, et par lequel les multiples éléments atteignent leur unité merveilleuse, incomparable. Une odeur de vie ou une odeur de mort? Tout ce que nous avons à cœur se reflétera dans le caractère et aura une influence sur tous ceux avec lesquels nous sommes en contact. Nos paroles, nos actes ont une odeur de vie donnant la vie ou une odeur de mort donnant la mort. Et au jour du jugement, nous serons confrontés à ceux auxquels nous aurions pu venir en aide sur le droit chemin par des paroles à propos et des conseils, si nous avions eu un contact quotidien avec Dieu et un intérêt ardent, constant pour le salut de leur âme. Le pouvoir de l'énergie, message adressé à un homme apathique, vous devriez développer l'énergie de votre caractère, car l'exemple d'un homme énergique est d'une grande portée et incitatif. Il semble posséder un pouvoir électrique sur les autres esprits. De nos jours, les hommes consciencieux sont peu nombreux. Tous les ouvriers du Seigneur rencontreront des obstacles et des difficultés. Mais ils devront les affronter avec courage. L'ouvrier énergique et sérieux ne permettra pas que son chemin soit bloqué. Il renversera les barrières. Il vous faut une énergie solide, uniforme, inflexible. Vous devez vous discipliner et procéder à un changement complet. Faites des efforts et dominez tous vos sentiments puérils. Vous vous êtes beaucoup trop apitoyé sur vous-même. Vous devriez décider que désormais votre vie ne se passera plus à des vétilles, et que vous devez faire ce qu'il faut pour y parvenir. Vous prenez de bonnes résolutions. Vous êtes toujours sur le point de faire quelque chose, mais vous ne passez jamais à l'acte. La plupart du temps, vous vous contentez de parler au lieu d'agir. Vous jouiriez d'une bien meilleure santé si vous faisiez preuve d'une plus grande énergie et si vous agissiez malgré les obstacles. Un amour indicible. L'amour du Christ est une chaîne d'or qui unit les êtres humains finis qui, en Jésus-Christ, croient au Dieu infini. L'amour que le Seigneur éprouve pour ses enfants dépasse toute connaissance. Aucune science ne saurait le définir ou l'expliquer. Nulle sagesse humaine ne peut le sonder. Plus nous ressentirons l'influence de cet amour, plus nous serons humbles et doux. Le véritable christianisme façonne tout l'être, la véritable religion chrétienne siège dans le cœur. Comme elle est un principe permanent, elle s'extériorise, influant sur la conduite, au point que l'être tout entier est conforme à l'image du Christ. Les pensées elles-mêmes sont rendues captives de son esprit. Lorsque ce principe permanent n'est pas dans le cœur, l'esprit est formé à la ressemblance trompeuse de celui de Satan qui accomplira sa volonté pour la ruine de l'âme. L'atmosphère qui entoure de telles âmes est nuisible à ceux de leur entourage, qu'ils soient croyants ou incroyants. Moyens naturels et santé, les choses de la nature sont des bénédictions de Dieu, dispensées pour la santé du corps, de l'âme et de l'esprit. Elles sont données pour ceux qui sont en bonne santé afin de les y maintenir, et de guérir ceux qui sont malades. Associés à l'hydrothérapie, ils sont plus efficaces pour le rétablissement de la santé que tous les médicaments du monde. Obéissance et paix intérieure, il y aura paix, une paix constante, inondant l'âme, car le repos se trouve dans la parfaite soumission à Jésus-Christ. L'obéissance à la volonté de Dieu procure la sérénité. Le disciple qui marche sur les traces du doux et humble Rédempteur trouve un repos que le monde ne peut donner et qu'il ne peut ravir. À celui qui est ferme dans ses dispositions, tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. L'humilité produit la paix, lorsque ses vrais disciples en sont animés, l'humilité et la douceur, qui étaient la caractéristique permanente de la vie du Fils de Dieu, procurent une bonne humeur, une paix et une joie qui les élèvent au-dessus des servitudes de la sixième artificielle. Pardon et sérénité, qu'est-ce que le repos promis? C'est la certitude que Dieu est fidèle, qu'il ne déçoit jamais celui qui vient à lui. Son pardon est total et gratuit, et son accueil signifie le repos pour l'âme, le repos dans son amour. Repos et abandon de soi-même. On trouve le repos lorsque l'on renonce à toute auto-justification, à tout raisonnement motivé par l'égoïsme. Le total abandon de soi-même, l'acceptation des voies de Dieu sont le secret du parfait repos dans son amour. Faites exactement ce qu'il vous a dit de faire et soyez assurés que le Seigneur fera tout ce qu'il a promis. Vous êtes-vous approché de lui, en renonçant à tous vos expédients, à toute votre incrédulité, à toute votre justice? Venez à lui tel que vous êtes, faible, désemparé, prêt à mourir à vous-même. Là où les légions sataniques sont impuissantes, souvenez-vous que la tentation n'est pas le péché. Souvenez-vous aussi que, quelles que soient les circonstances dans lesquelles un homme est placé, rien ne saurait ébranler son âme aussi longtemps qu'il ne cède pas à la tentation et qu'il garde son intégrité. Ce qui est primordial pour vous personnellement, c'est que vous vous préserviez vous-même. Personne ne peut entamer votre intégrité sans votre consentement. Toutes les légions sataniques réunies ne sauraient vous faire du mal, à moins que vous n'ouvriez votre âme aux artifices et aux flèches du diable. Votre ruine n'aura pas lieu contre votre volonté. Si votre esprit ne contient pas d'impureté, toutes les pollutions extérieures ne sauraient vous contaminer ni vous souiller. Maîtrisez les sentiments, réjouissez-vous en espérance, mais non en vous fiant à vos sentiments. Dans l'espérance de la gloire, nous savons que la tribulation produit la persévérance, que la persévérance produit une fidélité éprouvée et que la fidélité éprouvée produit l'espérance. Qu'est-ce à dire? Si nous ne ressentons pas ce que nous désirons, nous laisserons nous aller à l'impatience, en prononçant des paroles qui montrent que nous avons les attributs de Satan? Nous ne pouvons pas nous permettre de proférer un mot acerbe ou une parole désobligeante étant donné que les esprits célestes nous observent et que nous menons un combat à la vue de l'univers céleste tout entier. Combien nous attristons le cœur de Dieu lorsque nous le renions d'une manière ou d'une autre. Les stigmates de sa crucifixion prouvent que le Christ nous a gravés sur la paume de ses mains. Encouragement et guérison des malades. Parlez du Sauveur compatissant à ceux qui souffrent. Il regarde avec compassion ceux qui pensent que leur cas est sans espoir. Quand l'âme est remplie de crainte et de terreur, l'esprit est incapable de voir la tendre sympathie du Sauveur. Nos sanatoriums doivent être un moyen d'apporter la paix et la sérénité aux esprits troublés. Si vous pouvez redonner le courage et l'espoir, la foi salvatrice, la satisfaction et la joie céderont le pas au découragement et à l'anxiété. De merveilleux changements pourront alors se produire dans leur état physique. Le Christ rétablira à la fois l'âme et le corps, et lorsqu'ils comprendront sa compassion et son amour, ils se reposeront en lui. Il est l'étoile brillante du matin, qui luit au milieu des ténèbres morales de ce monde pécheur et corrompu. Il est la lumière du monde, et tous ceux qui lui donneront leur cœur trouveront la paix, la sérénité et la joie. Le dynamisme du chrétien, un chrétien en pleine vigueur et en progrès ne sera pas un récipient passif au milieu de ses semblables. Il doit donner aussi bien que recevoir. Nos vertus se développent par l'exercice. La société chrétienne nous fournira un air pur, et en le respirant, nous devons être actifs. L'accomplissement de l'œuvre chrétienne, les sympathies et les encouragements prodigués, les instructions dispensées en faveur de ceux qui en ont besoin, la maîtrise de soi, l'amour, la patience nécessaire, manifestées dans cette œuvre, créeront en nous la foi, l'obéissance, l'espérance et l'amour pour Dieu. Il est essentiel, pour sa vitalité et sa force spirituelle, que l'âme ait de l'exercice. Une œuvre doit être accomplie grâce à une activité spirituelle qui tire profit des occasions de faire du bien. Plus un homme est fidèle dans l'accomplissement des devoirs chrétiens, plus ses qualités chrétiennes se développent. Importance des relations sociales, c'est par ces relations sociales que le chrétien entre en rapport avec ses semblables. Qu'il fasse briller la lumière divine qu'il a reçue sur le chemin ténébreux de ceux qui se perdent. Qu'il ne considère pas l'amour du Sauveur comme un trésor précieux et sacré qui n'appartient qu'à lui. Qu'il soit au contraire comme une source d'eau qui jaillit jusque dans la vie éternelle et désaltère tous ceux qui vont y étancher leur soif. Le pouvoir du christianisme, on rencontre, sur les humbles sentiers de la vie, des hommes occupés aux besognes les plus modestes, et possédant, sans le savoir, des facultés qui, développées, les mettent sur un pied d'égalité avec les hommes les plus honorés. L'attouchement d'une main habile éveille ses facultés latentes. De tels hommes furent appelés à devenir des collaborateurs de Jésus et eurent l'avantage de lui être associés. Les grands de ce monde n'ont jamais eu un tel maître. Quand les disciples sortirent de l'école du Sauveur, ce n'étaient plus des hommes ignorants et incultes. Ils s'étaient rapprochés de lui par l'esprit et le caractère, et l'on se rendait compte, en les voyant, qu'ils avaient été avec Jésus. Besoin d'avoir un objectif, tant que vous vivez, ayez un objectif dans la vie. Entourez-vous de soleil, et non de nuages. Efforcez-vous d'être une fleur fraîche et belle dans le jardin de Dieu, répandant du parfum autour de vous. Faites cela, vous ne mourrez pas plus vite. En revanche, vous abrégerez sûrement vos jours par des plaintes, et en faisant de vos peines et de vos douleurs le sujet de vos conversations. Avoir un but dans la vie, ceux qui vivent en ayant un but dans l'existence, en cherchant à faire du bien à leurs semblables, à honorer et à glorifier leur Rédempteur, sont vraiment des gens heureux sur la terre, tandis que l'homme agité, mécontent, qui est toujours à la recherche de ceci ou de cela, en espérant trouver le bonheur, essuie constamment des déceptions. Il est sans cesse en manque, n'est jamais satisfait, parce qu'il ne vit que pour lui. Fixez-vous comme objectif de faire le bien, de jouer fidèlement votre rôle dans la vie. Cherchez à atteindre le sommet de l'échelle, nous devons tendre au maximum nos nerfs et nos muscles spirituels. Dieu ne désire pas que nous restions des novices. Il veut que nous atteignions le plus haut degré de l'échelle, et que, de là, nous entrions dans le royaume de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Appendice.